Je voudrais, avant la prière, lire de l'évangile de Jean. Nous avons déjà, ce week-end, écouté beaucoup de l'évangile de Jean. Et ces versets m'ont... Nous avons écouté beaucoup de choses. Et je voudrais, ces versets m'ont touché le cœur. Je voudrais, dans le chapitre 16, lire à partir du verset 25. Ici, notre Seigneur dit, « Je vous ai annoncé ces choses en parabole. Mais l'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous révélerai pleinement le Père. » Et je crois que cette heure est arrivée. Elle est là, où il nous a révélé pleinement tout. En ce jour-là, verset 26, « Vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je demanderai au Père pour vous, car lui-même le Père vous a aimé, parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Je quitte le monde et je retourne au Père. » Alors ses disciples dirent, « Voici que maintenant tu parles librement et tu n'emploies pas de langage figuré. Maintenant nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que personne t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. » Jésus leur répondit, « Maintenant vous croyez, sachez bien que l'heure vient et qu'elle est déjà venue, où vous serez dispersés, chacun de son côté, et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses, afin qu'en moi vous ayez la paix. Vous aurez des tribulations dans le monde. De la paix ou bien les détresses. Mais prenez courage et soyez consolés, car j'ai vaincu le monde. Loué et remercié soit notre Dieu pour ces paroles qu'il a prononcées. Et je crois qu'elles sont pour nous comme une consolation. Oui. Soyez consolés. Prenez courage et soyez consolés, car j'ai vaincu le monde. Et que nous ne pouvons pas être heureux et être encouragés et prendre courage que ces paroles sont écrites. Quelle consolation. Pour nous tous, il a vaincu. Et nous aussi, nous pouvons vaincre avec lui. Être vainqueur avec lui. Croyons-nous cela? Oui. Pas seul, mais par lui et avec lui. C'est ce qui est merveilleux, comme il est écrit ici. Je vous ai dit ces choses pour que vous ayez la paix en moi. Oh, celui qui a la paix avec Dieu, en Dieu, il peut remercier Dieu. Il peut être heureux. Mais bien-aimés, seulement très peu ont la paix avec Dieu. S'ils avaient la paix avec les dieux, ils auraient aussi la paix les uns avec les autres. Il y en a qui veulent créer la paix sans Dieu et sans sa parole. Mais cela n'est pas possible, bien mes frères et sœurs. Seulement si lui nous accorde sa paix, et seulement en Jésus, nous avons cette paix. Et c'est peut-être raison que nous voulons encore cet après-midi l'honorer, lui rendre gloire et élever son Saint-Nom. Levons-nous pour le faire et ensemble l'adorer. Dieu fidèle, nous te remercions de la profondeur de notre cœur encore cet après-midi. Pour cette heure, nous te remercions déjà encore une fois pour les heures qui sont derrière nous, pour ta sainte et précieuse et parole bénie. Mon Dieu, nous pouvons que dire, tu as fait de grandes choses en nous. Prosterner dans la poussière, nous t'adorons, nous te louons. Seigneur, nous sommes tant reconnaissants de ce que tu nous as révélé ta vérité. Et que chacun, et que seulement celui-là peut comprendre cette vérité à qui tu as révélé sa parole, ta parole. Celui à qui elle n'est pas révélée, il partira. Il ne comprendra pas de quoi il s'agit, l'importance des choses, mais les tiens, Seigneur, te connaîtront et comprendront ta parole. Et te remercieront et loueront ton Saint-Nom. Car tu as parlé puissamment et tu t'es révélé dans nos jours. Tu ne parles plus en parabole avec nous, mais tu nous parles librement, ouvertement, avec les tiens, comme autrefois, encore dans nos jours, Seigneur. Gloire soit apportée à ton Saint-Nom. Nous t'adorons et te demandons que ta paix puisse demeurer dans nos cœurs. Et là où il n'y a pas encore ta paix dans le cœur, accorde. Là, nous avons besoin de ta paix. Nous avons chanté, nous avons besoin de toi en tout temps. Toi, Sauveur, Seigneur glorieux, ton nom est mon refuge, ton sang, ma mère de joie. Oh, reçois la louange, reçois l'adoration et la louange de toutes nos bouches et nos cœurs. Cet après-midi, Seigneur, nous te donnons à toi seul l'honneur et te rendons gloire. Et nous te demandons, fortifie notre frère qui apportera ta parole. Oh Seigneur, et ouvre nos cœurs pour que nous puissions la recevoir. Car nous savons que ce n'est pas la parole d'un homme, mais que c'est la parole, c'est que c'est ta parole. Gloire soit à ton saint nom et ton merveilleux nom de Jésus. Amen. Amen. Nous nous asseyons. Quelle grande distinction, quelle grande différence entre ce que les hommes considèrent pour eux comme certitude et entre ce qui est vraiment une certitude, une assurance. La parole de Dieu est véritable, certaine, et ce qu'il a dit, c'est certain. Et nous pouvons à 100% nous confier, nous abandonner à cette parole, car cette parole, elle est en nous, et nous sommes dans cette parole. Je ne crois pas que ce soit depuis le jour des apôtres. Je ne crois pas que depuis le jour des apôtres, il y a eu un temps dans lequel les croyants, par l'esprit, étaient si profondément, si intimement liés avec la parole de Dieu et l'esprit de Dieu comme c'est maintenant. Dans les siècles passés, il y avait plus de connaissances que de révélations. La révélation n'est pas si vieille que ça, que toutes les connaissances dans les déroulements de ces siècles déjà passés, tels que c'était en partie et c'était déjà manifesté. Dans l'Apocalypse, dans la révélation, bien sûr, est contenue la chose particulière qui nous sauve et qui nous révèle, qui nous fait comprendre ce que Dieu nous a accordé par sa parole et a fait pour nous. Et ainsi, nous avons simple avec la foi. Nous n'avons pas besoin. Si nous ne voulions pas croire, nous devrions nous efforcer, n'est-ce pas? Mais si nous croyons, nous n'avons pas besoin de nous efforcer. Nous ne croyons pas en nous. Nous ne croyons pas non plus en ce que nous pourrions faire. Nous croyons au Seigneur et à l'œuvre accomplie et achevée de la rédemption pour nous. Et ça, il n'y a pas longtemps, je l'ai déjà dit ici. Nous ne voulons pas appartenir à ceux qui travaillent toute leur vie à leur salut et à la fin n'ont pas encore la certitude d'être sauvés. Nous voulons appartenir à ceux qui croient ce que le Seigneur a déjà fait, a déjà dit par le prophète Joël. Celui qu'invoque le nom de l'Éternel sera sauvé. Amen. Amen. Il faut que cette foi vivante soit là, qui est au-dessus de tout doute. Il faut qu'elle pénètre notre être le plus profond. Cet après-midi, je ne suis même pas venu, je n'ai même pas lu dans les Saintes Écritures, mais un prédicateur doit l'avouer. Pourquoi est-ce que nous ne devrions pas dire les choses telles qu'elles sont? Mais partout où nous ouvrons les Écritures, Dieu nous parle. Il ne s'agit pas de préparer une prédication. Sa parole est une parole accessible pour nous. Et vous remarquez sûrement qu'à chaque fois que je veux me détourner des choses de l'enseignement, elles me saisissent avec puissance et elles me ravissent en elles. On ne peut pas changer les choses. Elles ont été conduites par Dieu ainsi. Et cela doit être ainsi pour cette dernière époque dans laquelle nous vivons. Mais il y a une chose que je veux avoir dit clairement. Nous ne tenons pas ici devant en tant que maître pour vous corriger et ensuite, et pas en tant que des gens qui connaissent mieux les choses que vous. Nous voulons d'une manière comme un père partager la parole de Dieu avec vous, car nous aussi nous l'avons que reçu pour pouvoir ensuite la transmettre. Paul pouvait dire autrefois, vous avez beaucoup de maîtres, mais peu de pères en Christ. Et c'est ainsi que nous voulons ensemble parvenir à la statue de l'homme parfaite dans le Seigneur. Et nous ne voulons pas rester des enfants ballottés partout vent de doctrine, mais nous voulons être affermis dans la foi. Et cela se passe par grâce. Vous remarquez dans la dernière brochure qui a été éditée et aussi dans la lettre circulaire, nous essayons avec tout ce qui est en nous de, n'est-ce pas, partager les vérités bibliques les uns avec les autres, mais le reste, Dieu doit le faire. Alors, c'est une chose entre Dieu et chacun individuellement. L'un reçoit l'accès, l'autre ne le reçoit pas. L'un conteste et l'autre enlève son pied du frein et s'abandonne au Seigneur. Et comme le frère Rousse l'a lu, le Seigneur a annoncé à l'avance que le temps arrive où il ne parlera plus avec nous en parabole. La plupart restent attachés aux paraboles, se disputent sur le sens et tombent. Mais il y en a qui, avec tout leur cœur, écoutent les paroles de la révélation de la bouche de Dieu et trouvent dans ces paroles, dans le Seigneur, leur équilibre, dans le Seigneur, dans sa parole, et aussi en relation les uns avec les autres. Cela va ensemble. Dans la langue anglaise, en fait, j'ai pu beaucoup plus explicite écrire parce qu'il s'agissait ici du mot « génération » et c'était nécessaire à cause du mot « génération ». En anglais, il n'y a qu'un seul mot pour « Geschlecht » et « génération ». Il n'y en a pas deux. Comme nous, en allemand, on a deux pour dire « génération », il y a deux mots. Et donc, par exemple, dans Matthieu 24, en anglais, verset 34, il est écrit « cette génération ne passera pas ». Et dans le domaine linguistique anglophone, depuis l'existence de l'être humain, une génération a toujours été considérée pour 40 ans. Et là, j'avais eu le devoir de prouver que chaque génération dans la Bible fut comptée différemment. Je vous donne trois exemples de Matthieu chapitre 1. Parce que nous ne l'avons pas ici dans l'Esprit clair en allemand. Vous pouvez le lire. Ici, il est parlé de trois. Geschlecht, nous disons en allemand. Et en anglais, c'est écrit génération pour Geschlecht. En français, on ne peut que le traduire par descendance. Et c'est ici, on ne doit pas mettre génération. On doit mettre descendance en français. Il n'y a pas d'autre mot plus proche que celui de l'allemand. Il y a donc en tout 14 descendance depuis Abraham jusqu'à David. Écoutez bien, s'il vous plaît. Le laps de temps d'Abraham à David, 14 descendance. Donc, environ 1000 ans. Divisé par 14, minimum 70 ans par descendance, par génération, dans le contexte anglophone, par génération. Depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, cela fait exactement 400 ans, divisé par 14, égale à 28 ans. La troisième période, 600 ans, exactement, depuis la déportation à Babylone jusqu'au temps de Christ, divisé par 14, fait exactement 42 ans. 70 ans, 28 ans et 42 ans sont que trois exemples ici. Si on voulait développer cette pensée en profondeur, j'ai seulement dû le faire pour les anglophones, car ils se sont fixés sur l'année prochaine. Sur l'année prochaine, 86, parce que l'ange de l'Éternel vint chez frère Branham et lui a été dit que le drapeau de David, pour la première fois, flotte dans l'air après 2500 ans, etc. Et c'est pour cela que c'était nécessaire dans la langue, dans la lettre scolaire anglaise. Mais je vous le dis simplement pour vous montrer que les calculs dans la parole de Dieu n'aboutissent et ne servent à rien. Et ne servent à rien. Qui nous a donné même ce devoir de le faire? Non. C'est tellement merveilleux de pouvoir croire comme dit les Écritures. Personne ne connaît le temps et l'heure, mais lorsque nous verrons que tout cela commence à arriver, nous devons nous redresser, lever nos têtes, car nous savons que notre rédemption est proche. On n'aura alors pas besoin de quelqu'un qui fait des calculs ou bien qui se trompe en calculant, mais nous comptons sur qu'une seule chose, c'est-à-dire sur le retour du Seigneur seul. Et quand est-ce que ce retour aura lieu, seul le Dieu Tout-Puissant le sait, et que cela devrait te suffire à moi et à toi. Mais si les frères américains m'avaient entendu parler ainsi, ils m'auraient déjà condamné, déjà jugé et condamné. Mais de toute façon, après cette lettre circulaire, ils vont se faire entendre de manière très dure, ça je le sais déjà. Mais lorsqu'on sait qu'on se tient et qu'on a été déterminé à Dieu pour défendre la parole de Dieu, alors tu ne te tiens pas pour la parole de Dieu parce que tu veux te tenir pour la parole de Dieu, mais tu te tiens pour la parole de Dieu parce que tu dois le faire au nom du Seigneur. C'est ça la grande distinction à faire. Et nous savons toujours que Dieu, au temps convenable, a toujours secouru. Alors qu'autrefois, le prophète Daniel, dans la captivité, lisait dans le prophète Jérémie, il avait exactement la période de 70 ans qui avait été donnée par la prophétie. Il y en avait déjà 68 qui étaient passés. Et donc, il savait que l'heure était proche, était rapproché. Quand Dieu indique des temps, alors tout est merveilleux. Mais lorsqu'il indique seulement des signes du temps, alors nous devons nous orienter aux signes du temps. Nous devons toujours dire ce que Dieu a dit et le croire ainsi tel qu'il a dit et ne pas aller au-delà de ce qu'il a dit. Peut-être que je vais aussi clarifier ces choses dans une lettre circulaire aussi en allemand, mais nous avons le problème ici, en allemand, nous n'avons pas le problème de ce problème-là. J'ai seulement voulu mentionner cela ainsi. Nous vous attendons tous, et bien sûr aussi la bénédiction de Dieu pour la fin de l'année. Et nous voulons nous offrir des heures bibliques et des réunions de prière selon le modèle primitif où nous sommes réunis dans la présence de Dieu. Pas seulement pour écouter des prédications, mais pour expérimenter Dieu. Pour un prédicateur de la parole, il y a seulement de la joie quand ceux qui ont écouté la parole aussi l'ont expérimenté personnellement et que Dieu a pu la confirmer en eux. Si on prêche le salut à ceux qui sont perdus et qu'ils ne sont pas sauvés, alors il y a une tristesse. S'ils sont sauvés, alors il y a de la joie. Si on prêche aux malades la guérison et qu'ils ne guérissent pas, alors il y a une tristesse. Mais quand ils sont guéris, alors il y a de la joie. Parce que la parole de Dieu est confirmée, la puissance de Dieu a été manifestée. Et les hommes ont expérimenté et l'ont pu l'expérimenter et repartir à la maison avec ce que Dieu leur a donné. La même chose est aussi pour chacun, pour chaque autre sujet. Si nous voulions parler du sujet du baptême du Saint-Esprit et que nous devions constater que le baptême du Saint-Esprit n'a pas été expérimenté, alors il y a de la tristesse. Mais quand on peut constater que la prédication du baptême du Saint-Esprit a été expérimentée personnellement par ceux qui étaient sous le coup de la parole, alors il y a de la joie dans le cœur. Partout où Dieu nous adresse et partout où Dieu peut confirmer à nous sa parole, il y a une reconnaissance profonde qui monte en nous. Comme quelqu'un qui avait été guéri autrefois, alors on n'avait pas besoin de lui dire « saute maintenant » et crie et réjouis-toi. Non, il a fait sans qu'on ait besoin de lui dire, parce que Dieu avait fait de grandes choses en lui, sans qu'on ait eu besoin de lui dire, dans Actes apôtre 3, par exemple. Mais nous croyons tout simplement que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, et le même éternellement. Et venez tous affamés spirituellement pour que Dieu puisse nous remplir et répondre. Car il est écrit, « Bénissons ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Ils seront rassasiés, remplis. Alors, si nous venons dans une réunion pour être enseignés, alors nous allons recevoir l'enseignement. Si nous venons, mais si nous venons pour encore recevoir plus de Dieu, alors nous recevrons aussi plus de Dieu. Nous devons arriver à ce point où d'un commun accord, nous saisissons dans la présence, nous saisissons chaque occasion pour venir dans la présence de Dieu pour prier ensemble. Et dans cette prière commune, c'est comme ça que nous pourrons rencontrer Dieu et qu'il nous rencontrera. Combien croient encore à cela que Dieu encore aujourd'hui va accomplir ses promesses et nous remplira tous de cet esprit. Croyez-vous tout cela encore cela? Croyez-vous encore à cela? Moi, je le crois. Moi, je crois même ce qui est écrit dans Zacharie, chapitre 10, au verset 1. Demandez à l'Éternel la pluie au moment de la pluie de l'arrière-saison et de la pluie de l'avant-saison. Ce sera pour finir à la fin comme au commencement. À la fin du temps, la grâce, ce sera comme au commencement. Il y aura une pluie puissante de Dieu qui se répandra. Et cela est en accord avec Actes des Apôtres, chapitre 3, la dernière partie du verset 19 et du verset 20. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Il y aura des temps dans lesquels la semence qui auparavant a été placée dans les cœurs sera ensuite par la pluie de Dieu abreuvée et le soleil de justice brillera sur elle pour que la croissance et la maturité aient lieu ensemble. Les deux, la croissance et la maturité, vont aller ensemble parallèlement dans ce dernier temps, dans ces derniers moments dans lesquels, d'un moment à l'autre, nous pourrons entrer. Même si dans la lettre circulaire, j'essaie de montrer qu'il est important que personne se fixe une date du retour du Seigneur Jésus-Christ. Alors, comme il est écrit ici, en aucun cas, même si j'ai écrit comme ça, en aucun cas, j'essaie de penser, comme il est écrit, de dire « mon maître tarde à venir ». Non, au contraire, je suis convaincu que son retour doit être très proche, mais je vais me garder de soutenir l'absence de sobriété. Nous devons continuer à planifier notre vie est à vivre normalement et à travailler comme si nous resterions encore 100 ans sur terre. Mais nous devons vivre et croire et servir le Seigneur comme si chaque jour serait le dernier que Dieu nous a accordé par sa grâce à vivre. Cette sobriété absolue doit nous rester conservée jusqu'au dernier jour de notre vie. Et je crois qu'il y aura un tel troupeau, une telle troupe qui tout simplement peut attendre dans la patience jusqu'à ce que l'heure de Dieu frappe, arrive. Et alors ça suffit. Ça suffira. Alors ça suffira, n'est-ce pas? Combien de temps ce laps de temps durera? Ça, personne ne le sait de nous. Aussi, pendant ce voyage, on m'a demandé, est-ce que c'est vrai que frère Branham a dit, les morts vont ressusciter et rester avec nous à peu près 40 jour. Et je vous l'ai déjà dit ici, par le travail de traduction, par les travaux de traduction, c'est obligé. Si quelqu'un connaît les prédications de Frère Branham, je dois l'être parce que j'ai traduit phrase pour phrase. Et là, on ne peut pas dormir en traduisant. Non, non. Ça, Frère Branham ne l'a jamais et jamais dit. Ça, c'est le frère Green qui l'a dit. Et cela est à trouver même dans l'une des bandes magnétiques, mais c'est jamais venu de la bouche de Frère Branham. Mais ce sont des choses qui sont mises dans la bouche de Frère Branham et ils sont mentionnés comme étant venus de sa bouche Et c'est comme ça que les gens se fixent des choses comme ça. Non, nous croyons ce que les Saintes Écritures disent et c'est ainsi que cela va arriver aussi. Comme c'est écrit, c'est même pas nécessaire qu'il y ait après la résurrection un temps qui reste avant que l'enlèvement ait lieu. Quand autrefois Jésus-Christ fut ressuscité et que les saints de l'Ancien Testament, selon Matthieu 27, à partir du verset 51, sont ressuscités avec lui, ils devaient attendre jusqu'à ce que les 40 jours soient passés, dans lesquels, n'est-ce pas, il avait parlé avec ses disciples. Et c'est seulement après les 40 jours qu'il pouvait les prendre avec lui dans la gloire. Mais quand le Seigneur maintenant revient, alors il revient avec le cri de réveil, avec la trompette de Dieu, avec la voix du prince des anges. Et les morts en Christ ressusciteront, premièrement, immortels, incorruptibles. Et nous serons transformés, changés, et ensemble, avec eux, en un clin d'œil, nous serons pris dans les airs. Alors, grand Seigneur, combien de temps Dieu a besoin encore pour le faire? Il a dit dans sa parole, et sa parole est déjà un fait achevé. Et au jour de Dieu, cela aura lieu. En un clin d'œil. Et nous serons au Seigneur, c'est le Seigneur pour toujours. En un clin d'œil. Je ne veux même pas avoir le temps de dire au revoir. Même pas le temps de regarder autour de moi. En un clin d'œil. Enlevé dans la gloire. Et malgré tout, nous savons, comme ici dans un cantique que nous avons chanté aujourd'hui, nous sommes invités à ce festin. Et nous revenons après le festin des noces de nouveau pour fêter le millénium, car pendant ce temps, il est roi et il sera assis sur le trône de sa gloire. Et tous ceux qui sont avec lui seront aussi avec lui. Et c'est écrit aussi dans Apocalypse, chapitre 19, à partir des versets 11, que les saints le suivront et de la même manière viendront avec lui. Nous pouvons, avec ces paroles, nous consoler les uns avec les autres, les uns parmi les autres. Car de grandes, puissantes révélations de Dieu et de sa parole, et malgré tout, nous demeurons humbles et petits dans la présence du Seigneur. Nous nous asseyons à ses pieds et nous plaçons un pied après l'autre de la foi et suivons le Seigneur, comme il est écrit, partout où l'agneau va, ils sont aussi allés, ils le suivent. Aujourd'hui, nous allons seulement rapidement, brièvement, observer quelques écritures et ensuite venir devant à une prière commune. La dernière fois, il m'a été dit que les prières communes sont plus puissantes, sont plus agréables et plus intimes. Et c'est vrai aussi, quand vraiment nous pouvons être ainsi dans la présence de Dieu réunis et que nous pouvons vraiment nous ouvrir et pouvons dire avant, Seigneur, pardonne-moi comme j'ai pardonné à tous ceux qui m'ont offensé. Ainsi, avec le pardon, avec la paix, avec assurance, nous approchons du trône de la grâce pour qu'il n'y ait plus d'obstacles et que plus rien peut nous retenir, mais que nous puissions avoir notre connexion et notre communion dans la présence de Dieu avec notre Seigneur. Et cela veut dire la prière commune, que chacun cherche sa connexion et son contact avec Dieu et dans le Seigneur. Et ainsi nous sommes un dans un esprit, dans une foi, dans une parole et dans la grâce du Seigneur. Dans Pierre, dans 2 Pierre, le chapitre 3, nous lisons au verset 2. 2 Pierre, chapitre 3, verset 2. « Afin que vous vous souveniez des paroles que les saints prophètes ont prononcé autrefois et du commandement de notre Seigneur et Sauveur qui vous a été communiqué par vos apôtres. Mais vous devez d'abord considérer qu'à la fin des temps, il y aura des moqueurs pleins d'arrogance, des hommes qui marcheront selon leur propre convoitise. Et où donc est son retour promis? Et disent, où donc est son retour promis? Restons d'abord ici à cette pensée. Beaucoup seront secoués lorsque cette période de 40 ans sera terminée, peu importe à partir de quand elle est comptée. Et les moqueurs auront bien sûr une grande chose pour se moquer des croyants et dire, mais où donc est son retour promis? Ne nous inquiétons pas, même si la moquerie devrait nous atteindre après tout ce qui est déjà arrivé. Cela fera en sorte que nous accueillerons encore avec d'autant plus de joie quand le Seigneur reviendra. Et si il pouvait revenir déjà dès aujourd'hui, peut-être que les choses doivent être ainsi pour que l'esprit et l'épouse crient et disent « Viens !» Et que ce ne soit pas que nous soyons comme ça à la légère en train de parler ou bien d'écouter ces choses, mais que cela puisse déclencher un cri de détresse. « Viens, Seigneur Jésus !» Et alors, cela aura aussi lieu. Je voulais dans ces jours également mettre l'accent sur ce fait qu'il est écrit ici afin que vous vous souveniez des paroles que les saints prophètes ont prononcées autrefois et du commandement de notre Seigneur et Sauveur qui vous a été communiqué par vos apôtres. 2 Pierre 3, verset 2. C'est ce que nous voulons faire. Nous voulons rester attachés à la parole de Dieu et à tout ce qui est écrit. Dans le même chapitre, au verset 14, il est écrit, c'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés sans tache et irréprochables devant lui dans la paix. Et considérez la longanimité de notre Seigneur comme votre salut, comme notre frère bien-aimé. Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. Ce matin, la parole de Corinthiens et aussi la parole de Jacques nous ont été lues concernant la sagesse divine, la sagesse de Dieu. Ici, Paul écrit concernant la sagesse. Pierre parle de la sagesse qui a été accordée à son bien-aimé frère Paul. Paul pouvait dire cette sagesse mystérieuse est cachée depuis des siècles. C'est cette sagesse de Dieu-là qu'il a révélée maintenant à ses saints apôtres et prophètes. Et ici, il est parlé de la sagesse qui a été accordée à Paul pour écrire ce que aujourd'hui nous avons tant besoin. Il était celui-là qui a écrit 1 Corinthiens chapitre 15. Il était celui qui a écrit tous ces sujets bibliques importants. 1 Thessaloniciens chapitre 4 et aussi chapitre 5 concernant le jour du Seigneur. Il était celui qui a parlé des dons et des ministères, qui a écrit concernant l'Église, la résurrection et concernant toutes ces choses qui sont dans l'enseignement, qui étaient dans l'enseignement d'une importance absolue. Et pour cela, nous sommes très reconnaissants à Dieu. Tous ces hommes-là, en fait, ont écrit comme si ces choses-là déjà étaient devant eux à leur époque. Et maintenant, nous regardons en arrière et ça va faire presque 2000 ans qui sont passés. Mais les prophètes, n'est-ce pas, dans leur époque, ont écrit comme si ce qui était devant eux dans le futur, des centaines d'années, était déjà même accompli. Un bon exemple, par exemple, Ésaïe 53. Et cela reste aussi le meilleur exemple. Il était meurtri à cause de nos péchés, frappé à cause de nos iniquités. La condamnation est tombée sur lui pour que nous ayons la paix. Il écrit ça au passé. Et par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Cela est écrit comme si cela s'était déjà passé. Et c'était encore dans le futur. L'Esprit de Dieu a, n'est-ce pas, fait un pont au-dessus des temps, d'éternité en éternité. Qu'est-ce que signifie le temps aux yeux de Dieu? Dieu est au-dessus de tout le temps et il laisse prononcer sa parole et ensuite il veille sur elle pour l'accomplir au temps convenable. Au verset 16, il est écrit ici, verset 16, il en est de même dans toutes ses épîtres lorsqu'il y parle de ces choses. Dans ces textes, cependant, il y a beaucoup de choses difficiles à comprendre que les ignorants et les désorientés et mal affermis déforment à leur propre perte, tout comme ils le font avec le reste des Écritures. Cela reste ainsi. Si quelqu'un tord le sens des Écritures, c'est parce que lui-même il est tordu. Si quelqu'un tord le message et tord ce qui a été dit, et en le faisant, il pense avoir fait quelque chose de particulier. Non, Dieu a des hommes qui peuvent enseigner et qui se laissent corriger et qui se laissent reprendre et ramener sur le droit chemin et qui ont accès à lui et à la source de la révélation divine. Comme cela a été souligné, tout ce qui vient de Dieu n'a pas été décidé dans un grégnum ou par un comité de conseillers ou bien prêché d'un comité, d'un podium. Non, c'était des saints hommes qui ont apparu. Ils ont été pris de l'agriculture ou bien de la bergerie. Et le Seigneur les a pris et les a envoyés. Pas une unique fois, il a pris un prophète qui aurait été un théologue pour que sa parole ne soit pas mélangée avec la pensée humaine, mais pour qu'elle reste pure et prêchée dans sa forme originale. Et avec Paul, il a fait une exception, mais il a dû aller 3 ans et demi dans le désert de l'Arabie, et c'est vraiment là-bas du désert et vide. Il a pu sortir de lui tout ce qui avait été mis en lui auparavant par l'instruction. Et ensuite, il s'est ouvert à la révélation de la parole et de la volonté de Dieu dans son temps. Que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, nous n'avons pas affaire à quelque chose de mélangé, mais nous avons affaire à la parole pure et divine, les vérités pures qui sont venues par l'inspiration divine. Et pour cela, nous sommes reconnaissants à Dieu. Si quelque chose devrait être difficile à comprendre dans la parole ou bien alors dans les prédications d'un homme de Dieu, alors il ne faut pas à tout prix vouloir comprendre ou bien alors classer dans son ordre. Nous ne sommes pas sous pression. Nous pouvons attendre et voir de quelle manière glorieuse Dieu révélera toutes ces choses et les accomplira en son temps. Ce qui est important, c'est que nous ayons part à ce que Dieu fait et que nous puissions de tout notre cœur être préparés quand ces choses arriveront, que nous puissions par la grâce de Dieu les vivre. Au verset 17, il est écrit donc, « C'est pourquoi, bien-aimés, puisque vous le savez d'avance, soyez sur vos gardes, de peur d'être emportés par l'erreur d'hommes sans scrupules et précision et d'être chassés de votre propre état de foi ferme. » Et ça, c'est de nouveau ici un avertissement très sérieux. Ici, Pierre parle des derniers temps que nous devons nous appliquer à être trouvés sans tache et irréprochables devant lui dans la paix, dans l'attente de ces choses. Là, il est parlé du jour du Seigneur. Au verset 10, c'est que le ciel et la terre iront en fracas. Il est parlé du jour de Dieu et ensuite la promesse. Au verset 13, mais nous, selon sa promesse, nous attendons des cieux nouveaux et une terre nouvelle où la justice habite. Et ensuite, à la fin, après tout cela, cette exhortation suit cet avertissement. C'est pourquoi, bien-aimé, verset 17, puisque vous le savez d'avance. Non, le verset 14, c'est pourquoi, bien-aimé, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés sans tâche et irréprochables devant lui dans la paix. Le verset 14 plutôt. Si je lis ici que Pierre, en relation avec cela, écrit que et mentionne le jour du Seigneur qui brûlera comme un four. Et il dit que si Paul, dans ses épîtres, vient à parler de ces choses, alors nos pensées ne vont-ils pas à 100% à 1 Thessaloniciens chapitre 5, où Paul écrit, vous connaissez tous cette parole, ce chapitre, mais je voudrais encore la lire. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Mais pour ce qui est du temps et de l'heure, vous n'avez pas besoin, frères, d'instructions écrites à leur sujet. Vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Quand ils disent « Maintenant il y a la paix et la sûreté », alors tout à coup la destruction les surprend comme les douleurs de la... Tous ces hommes de Dieu, Pierre et Paul, ont parlé de ce temps dans lequel nous vivons et nous sommes arrivés maintenant. Ça va faire seulement quelques semaines d'ici où ces deux paroles-là ont fait les titres des journaux, paix et sûreté. Ces soi-disant super puissances étaient assis à une même table et comme Daniel dit, ils sont assis à la même table et se mentent les uns les autres. Dieu a conduit le Seigneur ainsi, que tout le développement soit selon sa parole. Le développement des choses. Et nous sommes aussi reconnaissants pour cela de ce que nos yeux ont été ouverts. Qu'est-ce que nous devons interpréter? On n'a pas besoin de le faire. Paul a écrit concernant le jour du Seigneur. Vous n'avez pas besoin d'enseigner, que cela vous soit enseigné. Vous n'avez pas besoin d'instructions écrites à leur sujet. Quand ils diront paix et sûreté, alors la destruction les surprendra. Qu'est-ce qu'on a besoin de là? Est-ce qu'on a besoin de calculer quelque chose? Non. Vous remarquez très exactement comment, à quel point, à quelle heure il est. Nous pouvons lire l'écriture sur la muraille. Sentinelle, quelle heure il est dans la nuit? C'est ainsi que c'est écrit dans le prophète Esaïe. Et la réponse suit d'une manière puissante. Le matin arrive et aussi la nuit. Si vous voulez savoir plus, venez encore une autre fois et poser la question. Nous voulions encore plus savoir et parce que le temps est là et nous sommes venus et nous demandons Dieu et nous demandons à Dieu dans quel temps nous vivons, Seigneur, et il nous accorde la réponse, il nous accorde les versets bibliques, il nous ouvre le cœur et les yeux pour que nous puissions voir selon les Écritures dans quel temps nous vivons. Ça, c'est la conduite du Saint-Esprit comme du temps de Daniel. Ça, ce ne sont pas des imaginations, c'est pas de tâtonner ici et d'avoir des sensations. Ça, c'est l'instruction de Dieu au temps convenable par les Saintes Écritures, car elles sont notre nourriture spirituelle. Elle est aussi notre orientation. Elle est une lumière sur notre chemin. Elle est tout. Et oui, elle est devenue tout. Elle est beaucoup, mais oui, tout en tous. Mais est-ce que vous remarquez comment est-ce que Pierre, auparavant, n'est-ce pas, mentionne, et lui-même d'abord, il a dû avoir lu les écrits, les épîtres de Paul, parce qu'il dit que dans toutes ses lettres, c'est le cas pour lui. Il a parlé de toutes ces choses. Oui, des choses difficiles à comprendre. Et que cela ne soit pas comme ça. Maintenant, un présumé. Mais le temps n'était pas encore là autrefois. Il parlait du jour du Seigneur, l'attente du retour proche du Seigneur. Mais les signes des temps n'étaient pas encore allés dans leur accomplissement. Et même les hommes de Dieu ont dû regarder dans les Écritures et se sont posé la question, Seigneur, est-ce que c'est maintenant le temps arrivé pour telle et telle Écriture? Maintenant, ça va faire, comme déjà dit, presque 2000 années passées. Aujourd'hui, les choses difficiles à comprendre sont devenues faciles à comprendre parce que le temps est devenu mûr pour cela, parce que nous vivons au milieu de nous avons été placés au milieu du développement de ces choses. Nous n'avons plus besoin de quelqu'un qui nous interpréterait la parole, les signes des temps, l'accomplissement de toutes ces choses-là que Dieu avait prédit à l'avance nous laisse clairement savoir dans quel temps nous sommes arrivés. N'êtes-vous pas heureux de ça, pour cela, de cette manière, nous avons été enseignés par Dieu lui-même et conduits dans toute la vérité, que personne n'a besoin de venir et avec des livres. Ici, c'est ici qu'on ouvre. La Bible nous suffit. Ici, il y a plus que... Ici, c'est dans ce... Tous les livres des livres sont résumés ici dans la Bible. Alléluia. Oh, loué soit Dieu. Je souhaiterais parfois que Paul et Pierre soient ici parmi nous. pour écouter et voir et ce que nous voyons et vivre ce que nous avons la, le privilège de vivre directement devant le retour, avant le retour du Seigneur. Mais au moment où cela sera ainsi, alors il y aura une rencontre, n'est-ce pas, avec tous ceux qui nous ont précédés, n'est-ce pas, qui se sont endormis en Christ et ensuite avec le Seigneur. Et alors Pierre et Paul, Abraham, Isaac et Jacob, alors tous les saints du temps de l'Ancien Testament et aussi de la période de la Nouvelle Alliance, tous seront rassemblés devant le Seigneur. Et ensemble, nous chanterons le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, comme cela dans Apocalypse 15 nous est montré de, ce, de cette troupe, ou bien nous est dit de cette troupe sur la mer de cristal, ou bien de verre. Ce temps est arrivé bientôt, est proche, est très proche. Personne n'a besoin de concernant ces choses, d'instructions écrites. C'est ce que Paul écrit ici. Vous n'avez pas besoin, frère, d'instructions écrites. Qui a encore besoin d'instructions inscrites, d'instructions écrites? Si quelqu'un a besoin d'une instruction, d'un calcul par écrit, quelqu'un a besoin qu'on vous dise, qu'on vous décrive, voilà, le temps sera fixé, voilà, dans, à quelle année le Seigneur va venir. Non, 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 non. Nous, tout est écrit dans la Bible. Nous enregistrons les choses qui se passent autour de nous et nous reconnaissons par cela que le temps est très rapproché. Donc, ici, Pierre écrit, verset 17, 2 Pierre 3, verset 17, c'est pourquoi, bien-aimés, puisque vous le savez d'avance, soyez sur vos gardes, de peur d'être emportés par l'erreur d'hommes sans scrupules et précision, sans précision et sans scrupules, et d'être chassés de votre propre état de foi ferme. Des hommes sans précision dans la parole de Dieu. Et là aussi, on doit prendre garde. Celui qui pense être debout, qui fait attention de ne pas tomber. Celui qui est affermi dans la parole de Dieu fermement, qu'il prenne garde à être encore fondé plus fermement. Et celui qui est dans l'assurance, qu'il puisse encore avoir plus d'assurance que celui qui est saint, qui se sanctifie encore plus que celui qui est pur, qui se purifie encore plus et qui pénètre et qui demeure en Dieu et dans sa parole jusqu'à la fin. C'est de ça qu'il s'agit et c'est ça qui compte aujourd'hui. Car si frère Branham souvent disait que la chose vraie, le vrai et le faux seront si proches l'un de l'autre. Ici, il sera parlé de l'enlèvement et dans l'autre camp aussi de l'enlèvement. Ici, il sera parlé de la parole révélée et de l'autre côté aussi. Ne croyez pas que Rome pourrait être une séduction pour l'Église épouse, pourrait signifier de la séduction pour l'Église épouse. Ça, je ne crois pas dans toute éternité. La distance est trop grande. Je ne crois pas non plus que les Églises et les dénominations pourraient être une séduction, ou bien le Conseil mondial de l'Église pourrait être une séduction pour l'Église épouse. La distance est trop grande. Qu'est-ce que nous avons de commun? Non, 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 non. La chose est tout à fait différente. Et là, nous voulons absolument, nous voulons rien contre quelqu'un. Mais comme c'était au commencement, et l'apôtre Jean devait écrire que cela te plaise ou me plaise ou pas, que Dieu lui décide. Mais Jean a écrit, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, sinon ils seraient restés parmi nous. La vérité reste toujours vérité. Depuis le commencement jusqu'à la fin. Je l'ai dit hier soir ici, jamais je vais pouvoir croire que des hommes peuvent aujourd'hui être dans la vérité et demain se trouver dans l'erreur. Après demain, aujourd'hui, ce qu'ils croient est vrai et après ce n'est pas vrai. Non, ça je ne peux pas le croire. Je ne peux pas le croire. Je peux croire qu'on peut passer par des épreuves et être exposé à des épreuves. Je peux croire qu'on doit, on a à prendre des décisions. Je peux croire qu'on doit être conduit de connaissance en connaissance, mais pas d'erreur en erreur, mais de clarté en clarté et de vérité en vérité. Et c'est ainsi que nous serons bâtis et édifiés sur le fondement de notre très sainte foi. Jude verset 20. Et si ce fondement de notre très sainte foi sur lequel nous sommes édifiés est abandonné, alors nous bâtissons au bâtiment sur du sable. Et ça, on peut le relier à Matthieu 7, où il y en a quand même beaucoup de témoignages à rendre, de grands miracles. Et le Seigneur a dû leur dire, arrière de moi, vous ouvriez d'iniquité. Et il a même dit qu'il ne les connaît pas. Et directement après cela, dans Matthieu 7, il est écrit à partir du verset 21 jusqu'au verset 23, dans Matthieu 7, et à partir du verset 24, il est écrit, C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc. Un homme qui écoute les paroles de Dieu et qui les met en pratique bâtit sa maison sur le fondement inébranlable. Il bâtit sur la pierre angulaire qui est en même temps la pierre de fait, c'est-à-dire le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga. Il bâtit sur le fondement qui a été posé une fois pour toutes. Et ce fondement, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur. Au verset 26, il est écrit, « Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique est semblable à un fou qui a bâti sa maison sur le sable. » Nous tous, nous connaissons cette histoire et nous voulons ici ne juger personne au contraire. Bien au contraire, nous avons à nous examiner nous-mêmes, à nous éprouver nous-mêmes, à nous juger nous-mêmes. Est-ce que nous avons bâti sur ce roc, sur ce fondement, sur ce fondement absolu des Saintes Écritures, ou alors est-ce que nous avons, ou bien est-ce que c'est sur du sable que nous avons bâti? Bâti sur le seul fondement posé pour l'Église, une fois pour toutes, déterminé à l'Église une fois pour toutes. Et c'est peut-être raison que quand les torrents viennent, nous restons fermes, nous restons debout. Les vents soufflent, les tempêtes arrivent. Comme dans ce cantique que les frères et sœurs Gaïdjach passent parfois en chanté, les vents soufflent. Et cela reste ainsi, n'est-ce pas? Mais la différence consiste à ce que est-ce que le vent peut te renverser ou pas? Ou bien est-ce que tu restes debout? Le vent, même un torrent, est un danger, mais que les maisons sont restées debout. Alors, il y a de la reconnaissance dans le cœur des hommes. Alors, ça veut dire qu'ils ont résisté à l'épreuve qui est venue sur eux. Alors, si cela n'est pas le cas, alors nous devons avouer que les maisons n'ont pas été bâties sur le roc. Il y avait encore un verset que je voulais lire. Et ensuite, nous allons prier ici, dans 1 Pierre, au chapitre 3, à partir du verset 8, il est écrit. Enfin, vous tous, soyez d'un même esprit, plein de compassion et d'amour fraternel, miséricordieux et humble. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni injure pour injure, mais au contraire, bénissez, car c'est à cette fin que vous avez été appelés afin d'hériter des bénédictions. Car celui qui veut être heureux dans sa vie et voir des jours heureux, qu'il garde sa langue du mal et ses lèvres de la tromperie. Il se détourne du mal et fait le bien, il cherche la paix et la poursuit. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sur leurs supplications, tandis que la face du Seigneur est contre les ouvriers d'iniquité. Quelle parole d'exhortation et d'avertissement et de correction est adressée à nous tous ici. Et ça aussi, c'est la parole de Dieu. Pas seulement des choses de l'enseignement qui ne nous touchent pas dans notre vie personnelle, mais aussi ici, les instructions de la vie personnelle, l'enseignement de la vie personnelle et les réprimandes de la vie personnelle vont à notre préparation. Et ici, celui qui reçoit l'enseignement sur le destin du salut, etc., doit aussi accepter et recevoir l'enseignement pour sa vie personnelle. Nous ne pouvons pas séparer ces choses. Nous ne pouvons pas, comme ça, séparer la parole de Dieu en deux catégories. Toutes les Écritures sont inspirées de Dieu et sont nécessaires pour avertir, pour édifier, pour que l'homme de Dieu soit parfait, prêt à chaque bonne œuvre, équipé pour chaque bonne œuvre. C'est comme ça que Paul l'écrit à Timothée. Ici, il nous a demandé 1 Pierre 3, verset 8. « Enfin, vous tous, soyez d'un même esprit, plein de compassion et d'amour fraternel, miséricordieux et humble. » Qui de nous peut déjà dire qu'il est miséricordieux et humble? Seigneur, nous lisons qu'il était doux et qu'il était miséricordieux et qu'il était humble. Ça, nous le savons. Il était et il est encore aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui se passe avec toi aujourd'hui et avec moi aujourd'hui? Enfin, vous tous, pas une poignée, pas quelques personnes, pas seulement quelques-uns, mais vous tous soyez d'un même esprit, plein de compassion et d'amour fraternel, miséricordieux et humble. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni injure pour injure, mais au contraire, bénissez, car c'est à cette fin que vous avez été appelés, afin d'hériter des bénédictions. Nous voulons, n'est-ce pas tous, hériter des bénédictions, et Dieu en nous, et nous les a déjà préparées pour nous. Nous voulons remplir les conditions pour que les cieux s'ouvrent sur nous et que ce ne soit pas bouché, mais que le fleuve de la grâce puisse se répandre puissamment. Avec combien désire cela, comme ce cantique le chante. Les gouttes de la grâce coulent, tombent déjà. Envoie-nous la pluie, mais il y a des conditions à remplir. L'union, la compassion, l'amour fraternel, la miséricorde et l'humilité et tout ce qui appartient à cela. De soi-même, personne pourra l'apporter avec lui-même et serait capable de pratiquer ces choses. Mais Christ en nous, il sera alors la puissance de Dieu en nous par laquelle tout cela sera opéré par nous, ce qui est exigé de Dieu et ce qu'il exige, à quoi il regarde et ce qu'il attend de nous. Et aussi, il est écrit ici au verset 10, car celui qui veut être heureux dans sa vie et voir des jours heureux, qu'il garde sa langue du mal et ses lèvres de la tromperie. Combien de fois nous répétons une chose et c'est du mensonge de la tromperie? Et nous disons que nous l'avons appris d'une source par hasard. D'une source par hasard. Et je le dis involontairement. Pas involontairement, mais volontairement. En fait, il aurait été mieux de dire d'une source fiable, sûre. Il est toujours dit, je l'ai appris d'une source fiable. Changez le mot fiable, s'il vous plaît, par hasardeuse. Hasardeuse, ce serait beaucoup mieux. Une source hasardeuse. Fiable comme toi et moi nous sommes. Tous les autres le sont aussi. Et tel que toi et moi, nous pouvons nous tromper. Et tel que toi et moi, nous pouvons avoir tort. Et tel que toi et moi, nous n'avons pas besoin de penser toujours à voir les choses de la bonne manière. C'est aussi ainsi pour tous ceux qui veulent te raconter, à toi et à moi, quelque chose sur une tierce personne. Et ensuite, nous répondons cela et nous mentons et nous nous trompons en nombre. Et nous venons ensuite devant la face du Seigneur et nous voulons prier. Et nous nous étonnons qu'il n'y ait pas d'expérience avec lui spirituelle. Et nous nous étonnons qu'il ne nous baptise pas l'esprit de feu. Nous étonnons que le fleuve de la bénédiction ne se retombe pas sur nous. Ici, ce n'est pas seulement un conseil qui nous est donné. Ici, c'est une obligation. Car celui qui veut être heureux dans sa vie et voir des jours heureux, nous voulons tous. Alors, qu'il garde sa langue du mal et ses lèvres de la tromperie. De la tromperie. Pas seulement la tromperie et le mensonge qui viennent de toi, c'est déjà trop. Si chacun a des paroles trompeuses, c'est déjà trop. Mais si ensuite on a répété ce que d'autres ont dit, et ensuite cela est tordu, et à la fin il ne reste plus rien, et même la personne, elle ne va plus reconnaître ce qu'elle a dit. Mais la chose est pour moi très sérieuse. Très sérieuse. Nous vivons dans les derniers temps, et croyez-moi, Dieu ne s'adresse pas aux chaises sur lesquelles nous sommes assises. Dieu s'adresse à nous. Il veut que nous puissions garder sa parole, arrêter de médire, la pratiquer, que ce soit notre nourriture pour notre âme et que nous puissions nous diriger d'après sa parole, nous conduire. Ne prêtons pas notre langue à quoi que ce soit. Si quelqu'un dit oui, mais ce que je te dis, c'est vrai. Que sait-il si c'est vrai ou pas? Dieu seul sait si quelque chose est vrai ou pas. Chaque chose a de toute manière toujours deux faces. Ici, il est dit qu'il se détourne du mal, verset 11, et fait le bien, qu'il cherche la paix et la poursuit. qui cherche la paix et la poursuit. On ne peut rien faire de, on peut rien faire plus que ça. Et le reste, on le laisse entre les mains de Dieu. Il est de toute manière le juge de toutes choses. Il le juge. Car il est écrit ici, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sur leurs supplications. Tandis que la face du Seigneur est contre les ouvriers d'iniquité. Que Dieu nous fait des, face des hommes qui marchent dans ses voies, qui au moins veulent mettre sa parole en pratique, pour qu'au moins la volonté serait là, qu'il y ait un désir au moins dans notre cœur. Et si cela ne nous réussit pas, que nous puissions dire, Seigneur, vraiment, aide-moi, je t'ai secouru. Je t'ai attristé. Permets-moi à la prochaine occasion de réussir mes épreuves pour ne pas que tu sois attristé. Maintenant, pour finir, nous voulons encore cette parole connue de beaucoup d'années, depuis beaucoup d'années déjà. Pierre 4, verset 7 maintenant. La fin de toutes choses est proche. Devenez donc prudent et sobre dans la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres un amour ardent, profond, car l'amour couvre une multitude de péchés. L'amour, le mot amour, comme une ligne rouge, traverse toute la Bible, mais ça ne doit pas seulement traverser toute la Bible, ça doit traverser ta vie et ma vie. Ça doit laisser des traces visibles. Où tu as fait plus que ce qui était attendu de toi, où tu as répondu par amour, où la haine t'a été apportée et exprimée. Il faut qu'il y ait des traces d'amour qui restent, qui vont au-delà du charnel de l'humain, car les réactions humaines sont différentes. Mais nous, nous sommes devenus enfants de Dieu et nous voulons réagir divinement et spirituellement. La fin de toutes choses est proche. Et parce que nous le savons, nous voulons demander au Seigneur la grâce pour recevoir tout cela dans notre cœur et devant sa face, être trouvé dans ces choses pour que nous puissions lui être agréables. Pas de nous, d'être agréables à nos yeux, à nous-mêmes, mais d'être agréables à Dieu. Et cela va ensemble. Combien de choses sont proches l'un de l'autre. La propre justice et la justice de Dieu est agréable à Dieu et est agréable à soi-même. Ces choses-là sont si proches l'un de l'autre. Nous voulons avoir ce qui est vrai et ce qui est divin. Et le ciel est plein de ces choses. Beaucoup ont reçu déjà de sa grâce, de sa plénitude, grâce sur grâce. Maintenant, nous aussi, nous voulons recevoir de ta plénitude, car elle n'a pas diminué. J'ai jamais entendu que Dieu aurait dit, maintenant ma plénitude est épuisée. Non. De sa plénitude, nous avons reçu grâce sur grâce. Encore aujourd'hui, le puits de Dieu a plein d'eau pour toi, est rempli d'eau pour toi et pour moi. Encore aujourd'hui. Et c'est ainsi que, dans la foi, nous viendrons et remercier, car Dieu a fait de grandes choses à nous. Amen. À qui est-ce que la parole de Dieu ce week-end a inondé le cœur et a été révélée? Que Dieu vous bénisse. Et que ce n'est pas merveilleux? Et que cela n'est pas quelque chose de glorieux? Si la parole de Dieu inonde nos cœurs et nous touche, et si nous savons que c'est à nous que Dieu s'adresse et que cette parole nous appartient, ce que le Seigneur a promis, ses promesses nous appartiennent toujours. Ceux à qui le Seigneur a fait des promesses, ils les ont aussi expérimentées, reçues dans la réalité. Abraham avait expérimenté ce que Dieu avait promis. Israël a expérimenté ce que Dieu avait promis à Israël. Ça a toujours été ainsi. Et l'Église expérimente ce que Dieu a promis à l'Église. L'épouse vivra et expérimentera ce que l'époux lui a promis. Tout dans son ordre. de manière merveilleuse, conduit et dirigé par Dieu. N'oublions pas cette pensée. D'abord, nous avons été insérés dans ce que Dieu avait comme intention, dans son plan, et ensuite, nous devons être joints. Frère Gilson, c'était toi, n'est-ce pas? Oui. C'est le mystère. Et c'est peut-être la raison que nous venons ensemble nous réunir. Pour écouter des choses, pas pour écouter des choses nouvelles, mais pour écouter ces anciennes promesses et les représenter nouvellement devant nos yeux et dans nos cœurs, les recevoir. Le reste, le Seigneur, par sa grâce, le fera. Êtes-vous tous fortifiés? Avez-vous été tous fortifiés? Est-ce que votre venue a servi à quelque chose? Alors, ma venue a aussi servi à quelque chose. Que le Seigneur soit loué. Quel privilège, quelle grâce de ce que nous pouvons encore être ensemble ici. Combien de temps encore? Ça, seulement le Seigneur le sait. Mais nous sommes à chaque fois reconnaissants à Dieu. Quand nous pouvons nous rassembler, quand nous pouvons être ensemble, sûrement que le frère Rousse dira encore quelque chose, mais je voudrais de ma part encore souligner, nous vous attendons tous le 28 décembre et ensemble, nous allons passer ces jours, ce temps, et passer ensemble dans la nouvelle année avec le Seigneur. Nous vous invitons tous les frères de langue française, tous les frères et les sœurs de langue italienne et tous les frères et sœurs de la langue allemande, tchèque, polonaise, russe, tous. Nous vous invitons tous. Venez tous et écoutez la parole du Seigneur. Vous pouvez tous croire de tout votre cœur. Vous pouvez vraiment croire sans effort. Loué soit le Seigneur. J'ai déjà dit souvent, Dieu est digne de foi. Dieu est digne qu'on lui fasse confiance. Et c'est ainsi que la parole de Dieu aussi, elle est véritable, elle est digne de foi et d'acceptation. Ce n'est pas la parole de nous, c'est la parole de Dieu. Et dans cette parole, notre foi vivante est ancrée. Priez pour moi, je devrais aller rapidement à Londres et le voyage là-bas, dans le pays, et ensuite à Palermo et revenir. Je dis toujours, Seigneur, je reste à la maison, je préfère rester à la maison. Mais quand je suis à la maison, alors je ne dis plus rien. Alors je ne dis plus rien, n'est-ce pas? Alors je dois de nouveau voyager, mais je me réjouis de ce que nous avons ici des frères. Pensez à tous, aux frères Rousse, aux frères Schmitt, à tous les frères qui ici servent, se tiennent dans l'église comme piliers. Aussi des frères qui ne sont pas mentionnés. Vous savez, c'est difficile parfois. Parce que alors on devrait, quand on commence, mentionner tous. Mais vous savez de qui je parle. Nous estimons tous les frères et toutes les sœurs qui se tiennent malgré tout dans les épreuves les plus difficiles, qui restent là fermes et debout, quoi que ce soit des épreuves dans l'enseignement. Et celui qui est fondé sur le roc, il reste ferme. Et les tempêtes et les torrents ne peuvent pas le renverser. Nous sommes reconnaissants pour tous, pour la fidélité depuis des années. Cela aura servi à la fin. Cela aura servi d'être resté fidèle au Seigneur et à sa parole. Oh Dieu Tout-Puissant, soit la gloire et la louange. S'il te plaît, frère Rousse, je crois que tout a été dit. Nous sommes vraiment reconnaissants pour ce temps et pour ces rencontres. C'est quelque chose de précieux pour nous, nous qui croyons. Je veux dire quelque chose, peut-être que je ne devrais pas le dire, mais qui sommes-nous? Nous sommes que faibles et misérables, mais lui, il est tout puissant et il connaît le jour et l'heure et il peut utiliser les moments et ce sera notre plus grande joie que de voir beaucoup d'hommes encore recevoir la lumière et venir à la parole, à la vérité. Je vous remercie, bien mes frères et sœurs, de ce que vous n'avez pas hésité à venir malgré le trajet, tout ça. Les vacances sont devant nous, les congés, mais nous voyons, l'amour de Dieu vous a attiré ici. Quoi que ce soit, les vacances, l'amour de Dieu nous joint ensemble et nous voulons rester ensemble jusqu'à qu'une personne de la foi à la vue. Et nous devons aussi prier comme pour ceux qui sont seuls, pour que Dieu puisse encore secourir, que Dieu puisse encore accorder sa grâce. Encore, je dis, bien, frères et sœurs, nous ne savons pas s'il y aura un demain qui existera. Nous ne savons pas. Nous ne connaissons pas le jour ou l'heure. Cela pourrait être la dernière heure. Nous ne savons pas. Ça pourrait être la dernière réunion. Dieu le sait. qu'il puisse accorder sa grâce. Nous voulons encore ensemble prier et demander au Seigneur notre Dieu qu'il puisse être avec nous et avec tous ceux qui n'ont pas pu être ici pendant ce week-end, qu'il puisse aussi bénir nos frères et sœurs qui sont venus de l'extérieur, les a mentionnés de partout, de tous les peuples, les langues et les nations. Nous vous saluons tous et nous nous sentons liés avec vous. Et notre souhait, c'est vraiment que Dieu puisse vous bénir. Père céleste, nous te remercions de la plénitude de notre cœur, de ce que tu nous as appelés, de tous les peuples, les langues et les nations. Seigneur, c'est une douleur pour nous quand nous voyons comment est-ce que les hommes sont trompés, conduits par l'ennemi ou bien retenus par lui. Oh Seigneur, nous voulons tomber dessus nos faces et prier que tu puisses faire grâce et aider tous ceux qui sont encore, qui sont tombés dans cette amertume, dans cette colère, les uns contre les autres et dans cette animosité, dans cette calomnie. Seigneur, aide-nous ici dans cet endroit. Ôte toute l'amertume de chaque cœur. Mon Dieu, nous avons besoin de ton amour divin, de ta paix divine, les uns parmi les autres, les uns pour les autres, avec les autres, de ta paix céleste. Que ce ne soit pas seulement des paroles que nous avons entendues, mais je te demande, Seigneur, que tu puisses accorder ta grâce à tous, à tous les cœurs. Mon Dieu, tu sais, nous ne pouvons rien faire. Nous pourrions nous prêcher en vain, si ce n'est que toi, tu vivifies les cœurs et révèles ta parole. Oh, Seigneur, que tu puisses accorder ta grâce, je te le demande. Que tu puisses être avec mes frères et mes sœurs pendant leur retour à la maison et que tu puisses les garder. Et s'il y a encore une rencontre, que tu puisses, Seigneur, conduire tout et nous bénir de la plénitude de ta grâce. C'est ma prière profonde et notre prière à tous dans le précieux nom de Jésus-Christ. Alléluia. Glorie soit apportée à ton saint nom et merveilleux nom. Nous t'adorons. Alléluia. Alléluia. Gloire. Gloire, louange et adoration te soient apportées. Toi, Dieu fidèle. Alléluia. 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 Amen.